présidentielle pour Lutte ouvrière.
Bonjour Anna Marteau.
Bonjour.
Bienvenue dans la matinale de CNews. L'Ukraine, Boutcha, de nouveaux corps ont été découverts hier, les mains liées dans le dos. Le président Zelensky dénonce des crimes de guerre et même un génocide. L'Union européenne propose ses services pour aider au recueil des preuves concernant un éventuel crime de guerre. Il faut arrêter Poutine à tout prix. Comment ? Comment est-ce qu'on pourrait l'arrêter ?
Vous remarquerez que ni Biden, ni Macron, aucun des dirigeants n'est en mesure de l'arrêter. Hein. Voilà, non, moi, très clairement, mes espoirs reposent dans la population russe. Voilà, qui n'a pas voulu de cette guerre, qui voit aujourd'hui d'ailleurs revenir les morts, hein, parce que l'armée russe compte aussi ses morts, et qui est susceptible de se mobiliser pour justement contester et s'opposer à ce dictateur dont on voit qu'il se moque littéralement de la vie des êtres humains.
Mais on sait ce que ça coûte de manifester en Russie, et ce que ça coûte d'évoquer ne serait-ce que la guerre en Ukraine. C'est passible de 15 ans de prison. Donc c'est plus facile de manifester à Paris qu'à Moscou, vous en conviendrez.
Oui, mais c'est plus efficace, je pense, en Russie, et en tout cas bien plus efficace que de se dire que la solution viendra d'un Biden ou d'un Macron. Parce que la réalité, c'est qu'ils font partie du problème. Moi, je pense que ces puissances occidentales qui posent là en sauveur de l'Ukraine ont en réalité joué avec la peau du peuple ukrainien, parce que vous savez, ce bras de fer, il existe depuis des années, et c'est aussi le résultat de la pression qui a été exercée par l'OTAN sur l'Ukraine. Pour moi, ils ne sont pas la solution. Et d'ailleurs, on voit bien qu'ils n'en ont pas.
Bien sûr, mais est-ce que la solution, c'est d'envoyer dans les geôles russes des dizaines, des centaines, des milliers de citoyens russes, de travailleurs russes, puisque c'est eux que vous défendez ? C'est ça que vous proposez, finalement ?
Je pense que toutes ces périodes dramatiques, ces périodes de guerre, qui sont toujours orchestrées par en haut, hein, toujours orchestrées par les pouvoirs, elles sont arrêtées en effet par des révoltes. En effet par des révoltes. Et d'ailleurs, vous savez, la Première Guerre mondiale sur le front Est a été précisément arrêtée en Russie et en Ukraine par une révolution. Donc moi, je pense que c'est des choses, oui, qui peuvent se voir. Parce que ces guerres, on le voit bien, ce sont des souffrances sans nom. Des souffrances sans nom. Et c'est vrai que moi, je sais aussi qu'avec ces fameuses sanctions, ce sont les petites gens, ceux qui ont déjà du mal à vivre, qui vont en souffrir. Donc oui, tout ça, ça amène à un moment donné la population à se dire, finalement, c'est à nous de sauver notre peau, à nous de prendre notre sort en main. En tout cas, voilà, moi, mon souhait, c'est ça. Et je pense qu'il faut se poser la même question ici, d'ailleurs. Ici en France, où on voit que la vie est de plus en plus dure et où on voit que ceux qui dirigent, finalement, nous laissent dans la galère.
Vous faites la comparaison avec ce qui se passe en Ukraine et en France ou pas ?
Je pense que les dirigeants...
Ça serait quand même un peu...
Non, mais bien spécial, sûr, oui. Toute proportion gardée. Bien sûr, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher de penser que ceux qui gouvernent Emmanuel Macron et son gouvernement se moquent littéralement des difficultés qu'on a aujourd'hui au quotidien pour vivre. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a quand même des salariés qui se demandent comment ils vont retourner au boulot parce qu'ils n'ont pas de quoi faire leur plein d'essence, ou des gens qui doivent vivre dans des appartements, dans des maisons qui n'arrivent plus à chauffer, ou des 9 millions de personnes qui doivent aller à l'aide alimentaire pour se nourrir. Donc on est quand même dans une situation qui est indigne et qui ne s'explique que par une chose, c'est que ceux qui dirigent s'en moquent littéralement, parce que de l'argent, il y en a en réalité.
Alors, le gouvernement vous rétorquerait qu'il y a eu des mises en place de chèques énergie, que les prix du gaz ont été bloqués, qu'il y a une mesure d'aide qui arrive cette semaine sur l'essence, 18 centimes par litre. Ce n'est pas suffisant pour vous ?
Non, c'est pas suffisant, et surtout c'est pas ce qu'il faut. Voilà, quand on travaille du matin au soir, quand on porte la société. Mais moi, je pense aux aides à domicile, je pense aux ouvriers de l'agroalimentaire, je pense aux facteurs, je pense à tous ceux qui sont à la base de la société. Ils ne demandent pas la charité, ils ne demandent pas l'aumône, ils ne demandent pas une petite aide par-ci, une petite aide par-là. Ils veulent pouvoir vivre dignement de leur salaire, être reconnus par la société. Je pense aux soignants qui ont quand même tenu bon, qui ont pris des risques incroyables pendant la pandémie. Et là, on leur dit, débrouillez-vous. Mais qu'est-ce que c'est que cette société où on voit des milliards s'accumuler à un pôle, où on voit là les spéculateurs, parce que c'est des spéculateurs qui aujourd'hui font augmenter le prix du pétrole.
Du blé,
en l'occurrence, du blé. Et oui, moi, j'accuse tous ces spéculateurs là en col blanc, du haut de leur bourse, de leur marché de Chicago, de Londres, Londres. Ils ne sont pas à Moscou, eux. Hein. Mais moi, je dis que ce sont aussi des criminels. Des criminels parce qu'ils savent parfaitement qu'en faisant flamber le cours du blé, ils vont affamer des centaines de millions de femmes et d'hommes. Ah oui, ça sera peut-être loin. Ça sera en Égypte, ça sera au Maghreb, ça sera en Inde. Mais c'est quand même des centaines de millions de femmes et d'hommes qui vont se retrouver confrontés à la famine. Ça aussi, ce sont des criminels. Parce que vous savez, on tue aussi en semant la misère, en affamant les peuples, autant qu'avec des bombes.
On va revenir sur vos propositions sur le pouvoir d'achat. Un tout petit mot des sanctions contre la Russie. Vous dites que finalement, elles ne vont servir qu'à affaiblir le peuple russe et donc elles sont contre-productives, c'est ça ?
Vous savez, ces sanctions, ça va être moins de médicaments, ça va être des pénuries de produits essentiels, alimentaires, des produits de soins. Et ça sera les plus pauvres qui vont le payer, les oligarques russes. Ça leur fera même pas mal, c'est ça la vérité. Parce que quand on est blindé de millions, mais qu'est-ce que vous voulez ? On s'en sort toujours, dans n'importe quelle crise, on s'en sort. On s'en sort avec le marché noir, etc. Donc moi, c'est ce que je vois, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des embargos, qu'il y a eu des sanctions sur des pays, ça a été les petites gens, ça a été les travailleurs, en fait, hein, les plus pauvres qui l'ont payé. Je pense à l'embargo sur l'Irak dans les années 90. 500 000 morts recensés par l'UNICEF, vous vous rendez compte ?
Et les embargos n'ont jamais fonctionné quand on voit ce qui s'est passé à Cuba ou en Iran.
En tout cas, c'est pas en capacité d'arrêter ces horreurs aujourd'hui. Voilà. Donc, en effet, pour moi, c'est pas... encore une fois, moi, vous savez, quand on me dit... Oui, mais c'est compliqué qu'un peuple se révolte. Ouais, mais moi, je me souviens que...
C'est lui qui paye le prix du sang. Hein.
C'est lui qui paye le prix du sang. C'est lui qui va payer pour des générations, peut-être, le fossé de haine hein, qui est en train de se creuser entre deux peuples frères. Il faut quand même le dire et le répéter, ça. C'est catastrophique pour l'avenir. Donc, c'est lui. Et moi, je pense aussi, j'ai en tête quand même les fraternisations qui ont pu se dérouler. Justement, dans ce genre de situation.
Deux peuples frères, mais deux États souverains, on est bien d'accord. L'Ukraine est un État souverain et vous condamnez l'agression russe.
Je condamne l'agression russe, mais je condamne aussi les manœuvres et les arrière-pensées du camp impérialiste dans cette région. Parce qu'ils n'ont pas cessé de chercher à s'étendre, de chercher à pousser leurs pions, de chercher effectivement à installer leurs intérêts, leur influence économique aussi dans la région. Donc il faut dénoncer l'ensemble, c'est un ordre impérialiste, où les uns comme les autres ne jurent que par leur influence économique, leurs intérêts, l'intérêt de leurs grands groupes. Donc, et vous savez, quand on dit pays souverain, c'est comme ici en France, hein, voilà, quand vous êtes pauvre, quand vous êtes travailleur, vous êtes souverain de quoi ? Hein, c'est des rapports de force économique, cette société. Donc même les pays pauvres, même s'ils se disent souverains, la réalité c'est qu'ils sont sur la dépendance des plus riches.
Votre grand axe de campagne c'est les salaires, vous dites que les salaires ne rémunèrent pas, vous proposez de les augmenter, salaire SMIC augmenté à 2000 euros net, augmenter tous les salaires de 300 euros minimum, augmenter le minimum retraite à 2000 euros net. Comment est-ce que vous faites tout ça sans étouffer les entreprises, notamment les petites entreprises qui ne pourront pas avoir cette marge de manœuvre sur les salaires ?
Non, les petites entreprises, elles servent d'alibi pour les plus gros. Elles servent d'alibi pour Carrefour, pour Leclerc, pour imposer des salaires qui sont trop bas. D'alibi pour les Renault, pour les Michelin. Vous savez qu'en 3-8 à Michelin, vous êtes à 1500 euros net de salaire de base. C'est normal, ça ? Ce n'est pas normal. Le grand employeur qui est l'État, ce n'est pas une petite entreprise. Vous avez vu les salaires ? Hein, dans la fonction publique.
Donc,
On utilise les petites entreprises et leurs difficultés pour condamner les salariés au bas salaire. Mais les difficultés des petites entreprises, c'est les donneurs d'ordre, c'est les banquiers, c'est ceux qui sont au-dessus en réalité. Moi, je connais beaucoup de boulangers, beaucoup de coiffeurs qui seraient ravis que leur clientèle ait un petit peu plus d'argent justement pour profiter un petit peu plus, vous voyez. Donc moi, quand on me dit que ça va mettre par terre les petites entreprises, je suis pas d'accord. D'ailleurs, vous savez, en mai 68, c'était exactement la même musique avec vos revendications, vous allez mettre par terre toute l'économie. Mai 68, ça a été une grève générale qui a conduit à 35% d'augmentation du SMIC. Et ça n'a pas mis les petites entreprises par terre, ce n'est pas vrai. Donc il faut prendre le problème par le bon bout. Le bon bout, c'est que les travailleurs, les producteurs, oui, les petits commerçants et artisans aussi, bien sûr, puissent vivre de leur travail. Et ça veut dire s'en prendre aux banquiers et aux grandes entreprises qui accumulent et qui accaparent en fait l'essentiel de la richesse de la société.
Emmanuel Macron a affirmé qu'il ne voulait pas faire d'économie au détriment des plus précaires. Ah. Il allait lancer toute une série de mesures. Il l'a déjà amorcé sur son quinquennat pour aider les plus précaires. Alors je vois que ça vous fait rire parce que vous ne le croyez pas.
Bah, écoutez, qu'est-ce qu'il a fait pendant tout son quinquennat? Il est allé chercher même sur l'APL des étudiants, il a réduit les allocations chômeurs, comme si les chômeurs désiraient leur situation. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il n'a pas cherché. Il est allé, y compris s'en prendre aux retraites. Aux pensions de retraite. Donc c'est ça la réalité de sa politique. Le quoi qu'il en coûte, il l'a fait, oui, il l'a fait pour les grands groupes, ça c'est sûr. Mais y compris en allant puiser le dernier euro, en fait, dans les poches des classes populaires. Donc non, évidemment, il a gouverné pour les plus riches. Et puis moi, je suis quand même frappée de voir qu'y compris, il n'y avait pas un euro pour les hôpitaux. Ah mais là, maintenant, il y en a pour se réarmer. Ah, il y en a pour les missiles, il y en a pour les avions de combat. Donc voilà, c'est ça sa politique aussi.
Vous étiez en meeting au Zénith avant-hier pour faire entendre le camp des travailleurs. Comment vous comptez les empêcher de voter ou Mélenchon ou Le Pen, qui capte aussi une partie de cet électorat populaire ?
Moi, je combats bien sûr Le Pen, ô combien, parce que elle divise le monde du travail et elle dresse finalement une partie du monde du travail contre une autre. Alors que notre force, elle est collective, c'est de nous battre ensemble. Mais c'est de se battre précisément. Et c'est ça la différence que j'ai moi avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que je pense que le monde du travail se protégera s'il est conscient de sa propre force, de la force qu'il représente, du simple fait que nous faisons tout tourner, nous, travailleuses et travailleurs. En fait, rien ne peut se faire sans nous. Rien ne peut se faire sans le fait que voilà, ben on y va au boulot. On y va au boulot et on se donne et on cherche à faire tourner tout ça. Hein. Donc c'est ça notre force. Et notre force, elle est collective et elle dépend effectivement de nos luttes, de nos réactions collectives, d'être soudés. En fait, on peut faire des choses par en bas. Voilà, la différence avec Mélenchon, hein, c'est que c'est pas... Moi, je ne dis pas, moi, par en haut, voilà, je vais vous faire tomber des choses tout cuit. Non, je dis non. Ça va dépendre de nos... encore une fois, de nos luttes collectives. Toute la société, c'est un rapport de force. Et les travailleurs, tout ce qu'ils ont obtenu, de significatif, ils l'ont obtenu par leur grève et leur manifestation.
Qu'est-ce que vous pensez de l'affolement autour des derniers sondages qui donnent un écart qui se resserre au second tour? Et on sait qu'il faut mettre toutes les réserves que l'on connaît sur le second tour dans les sondages, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Vous, qu'est-ce que vous feriez si vous êtes confronté à ce choix-là?
Moi, je ne veux pas que les regards soient rivés sur le second tour et surtout pas aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, encore une fois, moi je m'adresse aux travailleuses et aux travailleurs en leur disant que justement leur sort, il va dépendre beaucoup plus d'eux-mêmes, de ce qu'ils seront capables de faire eux-mêmes en se rassemblant, en discutant avec leurs camarades de travail, en s'organisant
pour se défendre
au jour le jour que du président de la République. Oui, mais on nous fait croire toujours que notre sort dépend de celui qui va être assis dans le fauteuil présidentiel et que nous ne pouvons rien faire. Ben, moi, c'est l'inverse que j'ai envie de dire. J'en ai marre que dans cette société, on nous éduque à l'idée qu'il faut toujours s'en remettre à d'autres. Non, les travailleurs peuvent faire les choses eux-mêmes. Vous savez, les travailleurs de tous les pays, unissons-nous. Voilà, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Voilà notre ligne.
Bien sûr, vous aviez voté blanc en 2017, vous ferez la même chose. Mais comment faire barrage dans ces cas-là? On parle beaucoup de barrage, de front républicain, nouveau. Il n'y aura pas ça pour vous?
Et moi, je pense que les idées racistes, les idées de division, hein, toutes celles qui, finalement, dressent des pauvres contre les pauvres, on peut les combattre dans les quartiers populaires, dans les entreprises, partout où on est réunis et où on doit, en effet, se battre mais pour son salaire, se battre pour ses conditions de travail, se battre pour qu'il n'y ait pas la poste fermée, les services publics qui reculent, etc., etc. Donc, on peut se battre aussi ensemble. Et c'est en se battant ensemble, vous savez, qu'on fera disparaître ces idées d'extrême droite qui reviennent en force, ces idées racistes et tous ces préjugés.
Mais qui séduisent l'électorat populaire, 40% de l'électorat et du vote ouvrier, s'est tourné vers Marine Le Pen en 2017, 40%.
Ben oui, mais
ça vous interpelle ?
Oui, je pense que c'est en effet une grosse erreur. C'est se tirer une balle dans le pied. Et il faut en revenir à cette conscience que quelle que soit notre origine, notre couleur de peau, nos croyances, hein, eh bien, quand on appartient au monde du travail, on a la même peine à vivre. Le réveil, vous savez, pour beaucoup de travailleurs, il sonne trop tôt. On est crevé, on n'en peut plus. C'est des cadences infernales. On a du boulot par-dessus la tête. Pour les uns, les autres sont condamnés au chômage et à la précarité. Et ça, c'est vrai, quel que soit notre origine. Et il faut être conscient qu'on forme le même camp, un camp des travailleurs qui peut et qui doit se battre ensemble.
D'accord, mais qu'est-ce qu'ils vont voter, ces gens-là qui sont fatigués, qui se lèvent trop tôt?
Eh bien, précisément.
Ils voteront Marine Le Pen, c'est ça ?
Moi, je les appelle à voter pour le camp des travailleurs, c'est-à-dire pour eux-mêmes. pour leur camp, et qui lèvent justement cette et qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont, fiers de leurs revendications, et fiers y compris de dire, bah finalement, nous, si on dirigeait la société, elle marcherait mille fois mieux, parce que cette société, elle serait pas aveuglée par les profits, par les cours boursiers, on la remettrait sur ses pieds, la société. Donc on peut, et c'est affirmer cette idée que non seulement on peut se défendre pour nos revendications élémentaires, mais on peut aussi la changer, la renverser, cette société capitaliste. Donc c'est un vote, oui, un vote de conscience, un vote de combativité, un vote pour changer la société, moi, que j'incarne.
Merci beaucoup, Nathalie Arthaud, d'être venue ce matin défendre vos idées dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.